France Inter, la Terre au carré.
C'est le sujet de votre chronique aujourd'hui, Camille Cronier.
Oui, direction le continent africain, en plein milieu, la République centrafricaine, pour vous parler donc gorille. Alors, pas les superstars gorilles des montagnes, hein, popularisés en particulier par Diane Fossé, dont le film Gorille dans la brume retrace l'histoire, mais les gorilles de l'Ouest, dont on sait beaucoup moins de choses, parce que difficile à habituer à la présence d'observateurs humains sans qu'ils ne changent leur comportement, en témoigne la primatologue Shelly Mazzi.
Habituer les gorilles de l'Ouest à l'observateur humain est très très difficile et ça prend 8 ans pour chaque groupe. Donc dans le monde, on a seulement 7 groupes de cette espèce qu'on étudie qui sont habitués. C'est très très peu. Pour comparaison, les gorilles de montagne, on a habitué 90% de la population parce qu'ils sont beaucoup plus simples à être habitués.
Voilà, ça pose les bases pour ce qui va suivre. La chercheuse du Musée de l'Homme et du Muséum National d'Histoire Naturelle a fait une découverte publiée la semaine dernière. Ces gorilles de l'Ouest peuvent se bastonner jusqu'à la mort. Comportement connu chez leurs cousins des montagnes qui sont plusieurs mâles dominants, les fameux dos argentés, dans un même groupe, mais jamais documenté chez les gorilles de l'Ouest qui ont, eux, une autre structure familiale. Un seul dos argenté, son harem de femelles et les enfants, et...
Quand il y a une femelle, un mâle qui arrive à la maturité sexuelle, les deux vont quitter le groupe. Les femelles vont rejoindre un autre groupe qui est déjà formé, et les mâles deviennent solitaires. Ces mâles solitaires essaient d'attaquer d'autres groupes pour voler des femelles et former leur propre groupe.
Mais juste en montrant les muscles. En tout cas, c'est ce qu'on pensait jusque-là.
Normalement, ces combats sont des combats qui sont basés plutôt sur le bluff, sur les démonstrations des forces pour montrer à l'autre qu'ils sont puissants et donc qu'il ne faut pas l'embêter et qu'il peut protéger sa famille.
Pas de contact physique entre deux mâles dominants ou alors vraiment très rarement. Donc, quand on en retrouve un mort dans la forêt tropicale, voilà le scénario avancé jusque-là.
La population locale, les pygmées Aka, qui travaillent avec nous comme pisteurs de gorilles et qui sont indispensables pour suivre le même groupe de gorilles chaque jour, eux, ils nous ont toujours dit que c'était plutôt les léopards. Dans un cas, il avait vu des traces de léopards autour de l'endroit où le gorille a été attaqué et tué.
Mais...
Moi, j'ai jamais cru qu'un léopard pouvait vraiment tuer un gorille de 180 kilos. Et donc, j'ai mené cette étude pour innocenter les léopards et parce que j'étais convaincue que c'était vraiment une attaque par un autre gorille pour des raisons de compétition sexuelle.
Voilà, Shelly Mazzi se lance parce qu'il n'y a rien donc dans la littérature scientifique. Elle étudie les blessures retrouvées sur 2 dos argentés retrouvés morts au cours des 26 ans d'études sur 4 groupes habitués. Le dernier, c'était en 2022, pendant la nuit. On n'a rien pu voir en vrai.
Les blessures étaient partout dans le corps. Ça veut dire sur la tête, sur les membres, sur les dos. Et parfois, des types de blessures qui étaient comme une morsure ronde, qui était typique des gorilles. Il avait aussi des ponctions qui sont issues de leur canine très très grande. Parce que le mâle doit argenter à des canines qui font même 10 cm.
Bref, aucune blessure qui ressemble à la signature d'un léopard, parce qu'elle a consulté aussi des collègues spécialistes du félin en Afrique.
Ils m'ont montré des photos horribles. Les victimes des léopards avaient beaucoup de blessures sur le même endroit, moins dispatchées dans le corps, donc plus concentrées sur le dos, la poitrine et le cou. Parce que le léopard, il attrape sa proie, et il la retient avec les griffes. Et la différence, c'est que aussi parce qu'on ne trouvait pas qu'il y avait des traces de consommation. Par exemple, le dernier cas qu'on a eu en 2022, notre gorille avait même une partie des lèvres qui a été déchirée et qui était à terre. Si c'était un prédateur, moi j'imagine qu'il aurait mangé.
Voilà, les léopards mis hors de cause, en tout cas pour les gorilles, hein, pas pour certains humains, entre autres. Mais question, le gorille tueur alors, une fois débarrassé du chef, est-ce qu'il s'intègre dans le groupe ?
Non, il n'accepte pas le tueur. Le tueur part. Le tueur va profiter d'autres mâles qui ont tué et qui donc vont trouver une femelle qui va se libérer. C'est pour ça qu'il faut penser à l'échelle de la population et pas de l'individu. Mais moi, je trouve que c'est intéressant cette différence qu'on trouve chez les grands singes par rapport au lion, par exemple. Parce que ça signifie quand même que les individus ont une conscience un peu plus élevée, entre guillemets, de ce qui se passe. Ils ne vont pas se mettre avec ceux qui ont tué et bouleversé leur famille.
Mais tout cela brasse les groupes. C'est un mécanisme social certainement répandu chez les gorilles de l'Ouest. Encore faut-il pouvoir donc l'observer. Et on en revient à ce qu'on expliquait au départ, la difficulté de documenter cette espèce. D'ailleurs, le tueur fait un autre dégât.
Quand on perd le doigt argenté, on perd des années d'habituation de gorilles à notre présence parce que le groupe va se disperser. Et donc, on a perdu 15-20 ans de travail.
Dernière question, compte-t-il intervenir s'ils assistent à un de ces mortels combats?
C'est vraiment un doute éthique aussi, donc c'est toujours difficile de prendre des décisions comme ça.
Laisser faire la nature ou tenter de sauver des années de travail, pour l'instant le choix ne s'est pas présenté de toute façon, la mort était passée avant.
Merci beaucoup Camille Cronier.